Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour un nouveau numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Les représentations de Parsifal au Théâtre du Capitole sont terminées. Un des grands moments de la saison lyrique est donc passé. N'allez pas croire cependant que l'actualité musicale se relâche après une fin de mois de janvier très généreuse en événements de toutes sortes. Le mois de février ne va pas être en reste, loin s'en faut, comme vous allez pouvoir le constater tout au long de cette émission. Un programme copieux nous attend encore, et pour vous le présenter et le partager avec vous, j'ai le plaisir de pouvoir compter sur le fidèle Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Anne-Marie Chouchan devait aussi être avec nous, mais elle a malheureusement eu un empêchement de dernière minute. Qu'à cela ne tienne, Serge et moi, nous allons faire face, et il va bien falloir, parce que nous allons avoir du pain sur la planche. Ça commence tout de suite avec notre regard sur l'actualité de la semaine précédente et notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Ce sont les femmes musiciennes que nous allons mettre à l'honneur en ouvrant cette rubrique avec le concert qu'a donné le duo Patricia Petitbon-Suzanne Manoff, jeudi 30 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines. C'était le troisième rendez-vous de la saison des Arts Renaissants et il était très attendu parce que Patricia Petitbon ne vient pas si souvent que ça à Toulouse. D'ailleurs, la salle affichait complet pour cette soirée où la chanteuse et la pianiste proposaient un programme intitulé « L'amour, la mort et la mer ». Serge Chauzy, nous avons eu la chance d'y assister tous les deux. Si je vous dis que ce concert, c'était le charme, la poésie et la drôlerie, est-ce que vous serez d'accord avec moi ?
Ah oui, tout à fait. Cette cantatrice est quand même hors norme. C'est-à-dire qu'elle signale elle-même qu'elle a besoin de la scène pour s'exprimer. Et ça se ressent, même dans un récital, où en principe, le sérieux est de mise, bien pas avec elle. Vraiment, elle aime diverger vers d'autres présentations. Hein. Je l'ai qualifiée de cantatrice caméléon, parce qu'elle fait vraiment des choses complètement différentes et effervescentes en général.
Ça lui va bien, parce qu'elle est très colorée aussi.
Ah, très colorée.
Sa coiffure ses vêtements.
Oui. Ah, tout à fait, tout à fait. Et les accessoires qu'elle extirpe en général du piano, d'ailleurs.
Oui.
Donc, c'est vraiment un concert-spectacle hein, qu'elle nous offre. Et donc, oui, effectivement, c'était un beau spectacle, mais très musical en même temps, avec un programme complètement éclaté. Alors, avec des œuvres d'à peu près toutes les époques, ça commence par du Bach, mais enfin, ça reste pas longtemps dans le siècle baroque.
Du Bach au piano.
Au piano.
C'est-à-dire que la première pièce, Suzanne Manoff jouait, alors que Patricia Petitbon était debout devant le piano, regardait le public.
Oui, oui.
Et arrivait tout de même à capter l'attention, d'ailleurs.
Exactement. Et d'ailleurs, il est à remarquer qu'il y a eu quelques pièces pour piano seul qui ont été jouées, donc, rappelons, par la pianiste new-yorkaise d'origine lettone et allemande, donc une véritable pianiste internationale, Suzanne Manoff, très bien jouée d'ailleurs, c'est une excellente pianiste. Et même pendant les pièces pour piano seul, elle ne quitte jamais la scène. Elle est toujours là et elle illustre ou elle accompagne physiquement.
Elle fait quelques mimiques aussi devant
les
petits numéros dont nous gratifie Patricia Petitbon tout en chantant.
Oui, oui, non, mais elle est très particulière. Alors, on a eu droit à des nez de clown, des peluches diverses, à un gros poisson tout joufflu qui avale divers accessoires au cours du spectacle. Donc, c'était vraiment tout à fait réjouissant.
Oui, bah, y a un côté un peu enfantin aussi dans ce qu'elle fait, un univers de l'enfance en tout cas.
Oui,
pour ça, je me disais, c'est dommage, vraiment le genre de récital où on pourrait amener des enfants sans problème.
Ah, absolument, absolument. Et malgré quand même le sérieux du programme, hein, puisqu'il y avait des pièces extrêmement dramatiques, d'autres pièces très poétiques, qui toutes suivaient le thème général du récital qui était l'amour, la mort et la mer. Donc, voilà, une belle logique dans la succession des pièces tout au long de cette soirée.
Oui, c'était scénarisé, comme vous le disiez, mais c'était aussi quelque chose qui était pensé. C'est pas seulement des numéros épars pour épater un peu le public. Non, tout ça est vraiment structuré. On peut citer alors les compositeurs qui ont été chantés ou joués au piano. Il y en a près d'une vingtaine, tout de même.
Oui, c'est ça. Oui, oui. Ça part de Bach, puis il y a Samuel Barber, Nicolas Bacri, compositeur d'aujourd'hui, Eric Satie, Gabriel Fauré, John Lennon, s'il vous plaît, Joaquin Rodrigo, Jan Tiersen, le compositeur célèbre pour ses musiques de film. Jean Krah, Ariel Ramirez et Félix Luna, les compositeurs de la fameuse Missa Criolla, mais c'était pas ça qui était chanté là. Francis Poulenc, Enrique Granados, Aaron Copland, Robert Baxa, Thierry Esquèche.
Encore un contemporain.
Voilà, Francisco Mignone et enfin Frédéric Weatherly dans Danny Boy. Donc vraiment, un spectre très large.
Oui, et puis alors, vous disiez que Suzanne Manoff était une pianiste internationale. Là, c'était un programme aussi très, très international. Hein. Il y avait de l'européen, du nord-américain, du sud-américain. Alors, il y a des noms, je pense, là-dedans qui vont sans doute interpeller ceux qui nous écoutent. Mais qui sont ces gens? Robert Baxa, j'avoue que je ne connaissais pas.
C'est un musicien new-yorkais. Donc, effectivement, je ne peux pas vous en dire grand-chose, mais...
Mais même sans traverser l'Atlantique, Jean Krah, évidemment, c'est un Français.
Jean Krah, c'est un Français, oui, il n'est pas très connu. Hein, mais de temps en temps, quand même, on a entendu certaines de ses œuvres dans des concerts à Toulouse. Notamment, je me souviens, Plasson a dirigé une œuvre de Jean Krah à l'époque où il officiait à la tête de l'Orchestre National du Capitole.
Jean Krah, breton, qui était à la fois officier de marine et compositeur.
Mais oui.
Un personnage. Et puis, Francisco Mignone, alors moi aussi, j'ai découvert, mais vous connaissez, parce que vous êtes un amoureux du Brésil, où vous vous rendez régulièrement, et apparemment, il est très connu là-bas.
Oui, tout à fait. Francisco Mignone, il est mort en 1986 et c'est un compositeur très apprécié et très aimé au Brésil. Et là, elle a chanté dans un excellent portugais d'ailleurs, Dona Janaína, qui est Sereia do Mar, ça veut dire Mademoiselle Janaína, donc sirène de la mer. Donc c'était vraiment relié au thème général de l'œuvre.
Frédéric Weatherly, c'est compositeur américain. Non, anglais. Je crois que c'est anglais.
Oui, il est britannique, absolument, oui.
C'était Danny Boy.
Danny Boy, oui.
Dernier morceau.
Dernier morceau très tendre et très nostalgique.
Pour dire au revoir.
Voilà, mais il y a eu quand même des passages extrêmement dramatiques. Hein.
Oui.
D'ailleurs, ça a commencé par ça, le Crucifixion de Samuel Barber et les deux chants de Nicolas Bacri. C'est vraiment extrêmement intense et dramatique, avec même pour Alamar de Nicolas Bacri, quelques accents presque flamenco, hein, qu'elle assume largement, évidemment.
Alors, je connais Nicolas Bacri, mais j'avoue que je ne connaissais pas ses mélodies, qui sont extraites dans un recueil de 4 mélodies, les mélodies de la mélancolie, Melodías de la Melancolia. C'est en espagnol. Alors, la raison, en fait, en est assez simple, c'est que c'est composé sur des textes de l'auteur colombien, bien vivant d'ailleurs, Alvaro Escobar Molina.
Ah bien.
Voilà
bien,
la
bien.
Raison pour laquelle c'est en espagnol, ce qui m'avait un petit peu étonné, mais c'était vraiment très très beau.
Très très beau. Et la première des mélodies qu'elle a chantées est pourtant en anglais, All Through Eternity. Donc lui aussi, Nicolas Bacri, écrit sur des textes de langues diverses.
Alors la salle était pleine, mais vraiment pleine. Et le public était enthousiaste, parce qu'elle sait y faire aussi pour s'attirer les bonnes grâces de son public.
Oui, tout à fait. Oui. Puis elle changeait beaucoup de caractère, hein, d'une mélodie à l'autre. Par exemple, Adela de Rodrigo, c'était extrêmement émouvant. Et puis elle rajoutait des bruitages, en particulier dans les pièces pour piano seul de Jan Tiersen. Elle rajoutait des bruitages, des choses tout à fait amusantes et originales. Par moments, elle se mettait à chanter dans le piano, penchée sur... Vraiment sur les cordes du piano.
Beaucoup de complicité avec Suzanne Manoff.
Ah, complète, oui. Suzanne Manoff qui, quelquefois aussi, mêle sa voix à la pièce qu'elles interprètent. Hein, donc, c'est vraiment très amusant.
Non, ce qui faisait aussi que ça retenait l'attention, c'est qu'on sentait qu'il pouvait toujours se passer quelque chose.
Ah,
et
oui.
Il se passait toujours quelque chose.
Oui,
c'était pas que du chant et du piano.
Absolument. Alors, on peut effectivement constater d'abord que sa voix a beaucoup changé.
Oui.
Hein, au début, c'était un petit rossignol, avec une voix légère, des aigus...
Vraiment une soprano coloratour.
Parfaite, oui. Mais là, la voix a pris de l'ampleur, de la projection, donc ça lui permet un impact dramatique plus effectif, quelquefois au détriment du velouté de son registre aigu. Hein. Parfois, c'était un peu strident par moment.
Oui.
Mais bon, il y a toujours un caractère et surtout une volonté et une volonté de faire du théâtre par la voix.
Et on se doit de préciser que Suzanne Manoff et Patricia Petitbon terminaient en fait une tournée là, de récital et qu'elle était... Patricia Petitbon, notamment, bien sûr, très fatiguée. Mais alors, elle a fait preuve d'un professionnalisme. Elle n'a pas du tout expédié son programme. Bien au contraire, ça peut expliquer aussi qu'il y a eu parfois un peu de fatigue, peut-être, dans la voix.
Oui, c'est vrai.
Alors, je vous ai dit que Patricia Petitbon avait chanté deux très belles mélodies de Nicolas Bacri, un compositeur contemporain dont l'œuvre gagne vraiment à être connue, selon moi. Merci donc aux deux musiciennes de l'avoir mis à l'honneur lors de leur concert. Nous allons écouter Patricia Petitbon dans une interprétation d'une des pièces de Nicolas Bacri entendue le 30 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines, une pièce titrée « À la mare ». À la mare, une des quatre mélodias de la Melancolia, les superbes mélodies de la mélancolie composées par Nicolas Bacri sur des textes de l'auteur colombien Alvaro Escobar Molina, chantés ici avec beaucoup d'émotion par Patricia Petitbon, accompagnée par l'Orchestre National d'Espagne dirigé par Josep Pons. C'est une des nombreuses œuvres qu'elle a interprétées la semaine dernière à Saint-Pierre-des-Cuisines, accompagnée évidemment là pas par un orchestre mais par la pianiste Suzanne Manoff. Serge, vous vouliez rajouter une petite chose, c'est que lorsqu'elle a interprété donc cette pièce du compositeur brésilien Francisco Mignone, là il s'est encore passé des choses.
Oui, alors c'est à peu près l'opposé de ce que l'on vient d'entendre, qui est dramatique et très beau, très pur. Alors là, la mélodie Dona Janaïne, elle l'a accompagnée en portant vers les spectateurs un magnifique perroquet en peluche, et puis elle a accompagné tout ça de caquettement repris d'ailleurs par la pianiste, et puis elle a un peu provoqué le public. Et elle a obtenu du public des réponses. Alors tout le public s'est mis à caqueter en même temps que la cantatrice et la pianiste. Vraiment, c'était tout à fait désopilant et ça cadrait très bien avec la pièce en question.
Elle poussait le public à en faire plus. Elle disait, oui. On peut mieux faire.
Exactement. Oui.
Non, elle sait se mettre les gens dans la poche. Ça. Elle sait très bien y faire. Notez que le prochain concert de la saison des Arts Renaissants aura lieu mercredi 26 février à 20h30 au Temple du Salin. C'est le jeune ensemble Tic Tactus qui va s'y produire avec son programme Mad Songs, des pièces vocales des des 16e et 17e siècles anglais, dont un grand nombre composé par Henry Purcell. Le lendemain du concert du duo Patricia Petitbon-Suzanne Manoff, le vendredi 31 janvier, au même endroit à Saint-Pierre-des-Cuisines, c'était cette fois-ci le troisième rendez-vous de Toulouse Guitare, la saison organisée par Thibaut Garcia et ses parents Jules et Gaël. Changement d'univers avec un autre duo de guitare, mais encore avec un programme de haute volée joué par de grands musiciens, les Italiens Matteo Mella et Lorenzo Michelli, qui réunis sur scène deviennent le solo duo. Là aussi, nous y étions, Serge Chosy, et nous avons été gâtés parce que ces deux excellents guitaristes ont interprété des œuvres de Scarlatti, Piazzolla, Janáček et Beethoven. Rien que ça, mais entièrement arrangé pour la guitare par leurs soins. On se demandait ce que ça pouvait donner pour certaines d'entre elles. Eh bien, ça fonctionne très bien. C'est même bluffant par moments. Qu'est-ce que vous en pensez, ça?
Ah oui, complètement. Moi, pour ma part, j'ai trouvé cette soirée complètement magique. Il y a eu une telle fusion entre les deux guitaristes, les deux musiciens. D'abord, ce sont des musiciens avant d'être des instrumentistes. Donc, ils font vraiment de la musique. Et puis, on a l'impression de n'entendre qu'un seul instrument. Un seul instrument très large. Comme l'a dit d'ailleurs Thibaut Garcia dans sa présentation, il a eu, lui, l'impression, et on l'avait dans la salle, qu'il y avait devant nous un clavier et que les notes s'échelonnaient de gauche à droite.
Mais il y en a qui faisaient la main gauche, l'autre la main droite. Et inversement, d'ailleurs, parfois, pas toujours les mêmes parties pour l'un ou l'autre.
Donc c'était vraiment d'une haute tenue musicale, donc il faut le souligner. À commencer par ces trois sonates parmi les 555 que Domenico Scarlatti a composées lorsqu'il était surtout à Madrid. Et donc, trois sonates de Scarlatti, alors on se dit, que vient faire Scarlatti à la guitare? Eh bien, on avait l'impression d'entendre un clavecin.
Ah oui, vraiment. Je me suis fait la réflexion en les écoutant. On avait l'impression d'entendre du clavecin et du beau clavecin.
Ah oui, du beau clavecin. Avec des nuances, des finesses, des pianissimi. Que peut-être on ne peut d'ailleurs pas faire au clavecin.
C'est à prouver.
Donc, c'était une espèce de clavecin plein de nuances qu'on avait sous la forme de deux guitares. Donc c'était vraiment tout à fait magnifique. Une espèce de dentelle polyphonique avec des changements d'humeur d'une sonate à l'autre. Ces trois sonates sont toutes très courtes, évidemment, comme toutes les sonates de Scarlatti, mais ça allait de la finesse à la nostalgie, c'était vraiment très très beau.
Et la K202, la K99, la K24, pour ceux qui voudraient aller écouter ce que ça donne.
Voilà. Et alors ensuite, il y a eu un grand contraste quand même, hein, avec la fameuse Tango Suite d'Astor Piazzolla, trois mouvements, hein, comme s'il s'agissait d'une sonate en quelque sorte, hein, avec un jeu de percussion, puisqu'en même temps, les musiciens non seulement jouent sur les cordes, mais ils frappent aussi la caisse de la guitare. Donc, Piazzolla, on connaît, c'est le tango évidemment, et là, c'était tout à fait magnifique, hein, avec un sens du rythme, et pas seulement de la mélodie, mais vraiment... Très très beau, très très beau. Notamment, j'ai vraiment adoré l'andante rubato melanconico qui était magique.
Ça, vraiment, c'était très très beau.
Très très beau, c'était une pure merveille.
Et alors après, on a eu un entracte tout de même.
On a quand même eu un entracte, il fallait bien quand
pour
même.
Pour reprendre notre souffle. Oui. Et derrière, encore, nouveau changement d'univers, mais total.
Ah, complètement, puisque on a investi le domaine tout à fait particulier du Tchèque Leos Janáček dans sa pièce qui initialement est composée pour le piano, qui s'appelle Sur un sentier broussailleux. Alors quelquefois sur un sentier couvert, il y a des traductions diverses.
Sur un sentier recouvert, oui. Voilà. Oui. On a overground pass en anglais.
En anglais,
titre.
Bon,
c'est en tchèque, je ne sais pas ce que c'est le titre, mais bon, voilà.
C'est ça. Alors en fait, c'est une suite de pièces, d'une dizaine de pièces. Et là, ils en ont joué quatre. Tout à fait magnifique, hein, avec des harmonies tout de même, typiquement de Janáček, hein, donc, mais ça nous a été expliqué par les interprètes, en l'occurrence par Lorenzo Michelli. Le véritable sujet de ces pièces, en fait, c'est le chagrin qui a été causé par la mort de la seule fille qui avait survécu, Janáček, le seul enfant qu'il a perdu à l'âge de 21 ans, sa fille Olga. Moi, ça m'a évoqué un peu le Schubert, qui dans ses cycles de Lied, trouve dans la nature une sorte de consolation ou d'accompagnement, plutôt d'accompagnement d'ailleurs de la douleur. Et c'était extrêmement émouvant, ces quatre pièces avec ces harmonies. Et alors là, ils ont réalisé des pianissimi complètement impalpables. On se demandait, mais comment est-ce possible à la guitare de faire des pianissimi aussi infimes et proches du silence? Donc c'était vraiment très très beau. Là, il faut quand même souligner que la transcription était des deux interprètes, était accomplie de manière très très fine, très intelligente et très sensible par les deux interprètes. Donc vraiment très très beau.
Et puis... La fin.
Alors là, c'était...
Pas la fin, pas la fin. Mais non, le dernier compositeur et la dernière pièce qui était au programme.
Bon, anniversaire oblige, hein, nous savons tous que nous fêtons le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. Et donc, ils ont osé, je dois dire, transcrire pour les deux guitares sa sonate pathétique, la sonate opus 13. Mais finalement, ça marche. Donc, on pouvait se demander, a priori...
Avec les Janáček, ce qui suscitait le plus d'interrogations tout de même hein, dans ce programme, cette transcription pour deux guitares de la sonate pathétique Beethoven, c'était magnifique.
Absolument, avec un sens du rythme magnifiquement... répartis entre les deux instruments. C'était pas simplement main droite, main gauche, c'était vraiment un ensemble tout à fait magnifique et bien fait. Alors c'était très virtuose, évidemment, mais avec une virtuosité qui ne s'expose pas, une virtuosité un peu au service de l'expression.
Qui ne se montre pas.
Voilà, exactement.
Qui n'est pas là pour épater le spectateur.
Non, c'est pas pour épater la galerie, c'est pas du tout. Donc, le rondo final en particulier était éblouissant. Vraiment très très beau.
Ouais, fusion totale entre ces deux musiciens qui jouent ensemble depuis plus de 15 ans.
Et bon, oui, tout de même.
On fait pas ça du jour au lendemain, hein, je pense.
Ben oui, ils ont fondé l'ensemble en 2003. Hein,
comme
donc,
ça, voilà.
Ils se connaissent bien.
Qui parlent tous les deux très bien français.
Oui, ils ont
fait des explications de textes, j'allais dire, des explications des œuvres qu'ils allaient jouer dans un français tout à fait compréhensible. Avec l'accent italien en plus, hein. Ça ne gâche rien, bien au contraire. Et puis, il nous avait préparé un bis.
Un petit bis, oui.
Et là, on est en France, alors, ils ont fini par un français.
Ah oui, quand même.
Et alors, qu'est-ce qu'ils nous ont joué ?
Eh bien, ils nous ont joué le célébrissime Clair de Lune de Claude Debussy, cette pièce extraite de la suite bergamasque. Et mon Dieu, que c'est bien à la guitare. On a l'impression que c'est composé pour la guitare, hein. Donc c'est tout à fait convaincant. Hein.
Et c'était la seule pièce qui n'avait pas été transcrite par leurs soins.
Et exactement. Alors, je leur ai posé la question après. C'est une transcription d'Alexandre Lagoya, le fameux guitariste qui jouait en duo avec son épouse Ida Presti. Et donc, c'était lui qui avait transcrit ce Clair de Lune pour leur propre duo.
D'une certaine manière, c'était un double hommage à la France. Hommage à Claude Debussy et hommage à Alexandre Lagoya. Eh bien, cette transcription pour deux guitares de la célèbre pièce de Claude Debussy était parfaitement réussie. On va donc se faire le plaisir de l'écouter dans cette émission. Matteo Mella et Lorenzo Micheli, le solo duo interprète Clair de Lune.
Thank you.
On ne s'en lasse pas, c'était Clair de Lune de Claude Debussy, transcrit pour deux guitares et interprété par Matteo Mella et Lorenzo Micheli, le solo duo, qui l'ont joué en bis vendredi dernier à la fin de leur très beau concert à Saint-Pierre-des-Cuisines. Le prochain programmé par la saison Toulouse Guitare est prévu samedi 21 mars à 20h, salle du Sénéchal. Et là, il s'agira de toute autre chose, puisqu'on pourra y entendre le luth et la guitare d'Antoine Morinière, accompagné sur scène les arabesques du danseur Joachim Maudet. Nous devions terminer cette rubrique à la Halle au Grain, où était donné samedi dernier un concert du cycle Happy Hour. L'Orchestre National du Capitole y accompagnait David Frey dans un programme de concerto pour piano de Jean-Sébastien Bach et Mozart. Il y avait le numéro 1 et le numéro 4 de Bach et le 24e de Mozart. Autant dire que c'était trois parmi les plus beaux qui ont été composés pour le clavier. Tout semblait donc réuni pour une belle fin d'après-midi en musique. Et Anne-Marie Chouchon devait nous en parler, puisque c'est la seule d'entre nous à avoir assisté à ce concert. Hélas, comme je vous l'annonçais en début d'émission, Anne-Marie n'a pas pu se joindre à nous. J'ai eu cependant de bons échos de ce concert. Il faut dire que David Frey est un vrai spécialiste de Bach et Mozart, certainement les deux compositeurs qu'il affectionne le plus. Je crois que vous l'avez déjà entendu jouer... Ah, oui.
Assez souvent.
Du Bach et du Mozart, c'est
Bach, du Mozart et du Schubert. Je rajoute aussi Schubert qui joue magnifiquement. Donc c'est vraiment un excellent pianiste, un pianiste très attachant qui vraiment se met à fond dans les répertoires qu'il aborde. Et il est venu assez souvent à Piano Jacobin en particulier.
Et encore au mois de septembre dernier.
Oui, oui, oui. Moi aussi, je regrette infiniment de n'avoir pas pu assister à ce concert. Mais je suis sûr que ça devait très bien marcher avec les cordes, essentiellement les cordes. Dans Mozart, il y a des vents, mais pour Bach, c'est uniquement les cordes de l'Orchestre National du Capitole. Il avait déjà joué ses œuvres et d'autres avec cet orchestre, donc il y a vraiment une complicité entre eux. Bah, écoutez, on peut souhaiter le revoir bientôt à Toulouse, ce qui ne manquera pas. N'oublions pas qu'il s'agit d'un Tarbé.
Tarbé qui est passé par le Conservatoire de Toulouse avant de partir au CDSM à Paris, où là, il a reçu les conseils si précieux de ce grand professeur de piano qui est Jacques Rouvier, voilà, à qui il est resté très liés, puisqu'on les a revus il y a quoi, un an et demi, lorsqu'ils ont interprété là encore des concertos de Jean-Sébastien Bach pour 2, 3
et
4 claviers. On se rappelle tous de ce magnifique concert. David Frey, donc, je l'ai dit, il a joué les concertos numéro 1 BWV 1052 et numéro 4 BWV 1055 de Bach, qu'il a enregistré. Pour ceux qui s'intéressent, ça se trouve en CD.
Absolument.
De très très belles versions. Il a joué aussi les concertos 22, 24 et 25 de Mozart, entre autres avec l'Orchestre Symphonique de Dallas. Voilà, donc il était parfaitement dans son élément. J'avais le choix pour vous faire entendre David Frey dans une interprétation d'un des concertos qu'il a joué samedi dernier à la Halle au Grain. J'ai choisi le concerto numéro 1 BWV 1052 de Jean-Sébastien Bach, dont voici le premier mouvement Allegro. Thank you. Le premier mouvement allegro du concerto pour piano numéro 1 BWV 1052 de Jean-Sébastien Bach, joué par David Frey, qui nous permet de conclure en beauté cette première partie d'émission. Petite pause et je vous retrouve avec Serge Chosy pour poursuivre cette émission. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Seconde partie de Mélomanie avec Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. L'agenda de la semaine à venir est encore bien garni. Dès ce samedi 8 février à 20h, l'Orchestre National du Capitole est en concert à la Halle au Grain. Tougan Sokiev est de retour pour diriger la seule œuvre au programme de cette soirée. Mais alors, c'est une œuvre immense d'un compositeur qui ne l'est pas moins. Serge Chosy, de quelle œuvre et de quel compositeur s'agit-il ?
Eh bien, il s'agit de l'une des grandes fresques symphoniques de Gustav Mahler, la deuxième symphonie qui porte le sous-titre Résurrection, un sujet qu'elle traite vraiment avec une science et une empathie, on pourrait dire, extraordinaire, puisqu'il s'agit dans cette symphonie de vaincre la mort par la résurrection. Ça n'est pas mince hein, comme thème principal. Alors, c'est une symphonie que Tougan Sokiev a déjà dirigée avec l'Orchestre Capitole. En 2012, il l'avait donnée avec le même chœur qui sera là samedi, donc le chœur de l'Orphéon Donostia, bon, bien connu à Toulouse.
Lié à l'Orchestre du Capitole depuis Michel Plasson, depuis le début des années 80.
Hein, oui, déjà avec Michel Plasson. Donc c'est tout à fait...
Mais un chœur remarquable.
Un chœur magnifique, un chœur splendide.
Et qui est un chœur semi-professionnel.
Exactement.
C'est ça qui est extraordinaire.
Il faut le souligner. Vraiment, c'est un chœur sur lequel on peut toujours compter, qui a des couleurs formidables. Et donc, qu'ils reviennent pour cette symphonie, c'est vraiment un grand plaisir qui nous attend, d'autant plus que cette symphonie est peut-être... Alors, bon, après la première et la cinquième, c'est peut-être des grandes symphonies avec chœur, la plus jouée, puisqu'on ne joue pas très souvent la huitième, bien évidemment. Symphonie des mille qui réclame un tel effectif qu'il est vraiment difficile de la programmer. Mais donc, c'est une symphonie monde en quelque sorte, hein, qui embrasse l'humanité entière et donc qui est d'une beauté extraordinaire. Là, on a beaucoup de chance de revoir cette symphonie, d'autant plus que l'accueil par la France de la musique de Gustav Mahler n'a pas été, du temps de Mahler, très amène, c'est le moins que l'on puisse dire. Et l'un des grands adversaires de Gustav Mahler n'était autre que notre cher Claude Debussy.
Dont nous venons de parler il y a quelques instants.
Oui, immense musicien évidemment, mais qui avait la dent très dure pour ceux qui ne correspondaient pas à ce qu'il considérait être la mission de la musique. Puisque, sachez qu'il a assisté à la première de cette symphonie à Paris.
En 1895, je crois.
Exactement. Et là... Il a lui-même quitté ostensiblement la salle lors de cette première symphonie et il a écrit dessus cette citation qui est restée incroyable. « Ouvrons l'œil et fermons l'oreille. Le goût français n'admettra jamais ces géants pneumatiques à d'autres honneurs que de servir de réclame à Bibendum. » Rien que ça. Donc c'est vraiment...
Non, mais il était très acide, très acide. Et il est vrai que quand on regarde un peu le personnage, la correspondance de Bussy, toutes les anecdotes qui circulent sur lui, il n'y avait pas grand monde qui trouvait grâce à ses yeux, y compris peut-être surtout en France d'ailleurs.
Oui, et pas seulement
que les compositeurs germaniques qui subissaient ses foudres. On sait qu'il détestait Brahms.
Ah oui, oui. Il disait fuyons, il va développer.
Voilà. Malheur, c'est un peu la même chose qu'il dit là.
Oui, tout à fait.
Mais d'autres aussi ont du mal à comprendre tout simplement qu'est-ce que c'est que cet objet nous lance comme ça aux oreilles. La figure.
Mais oui, même dans le propre pays de Gustav Mahler, puisque le grand chef Hans von Bülow, grand chef s'il en fut, à la fin du 19e, eh bien, il a carrément rejeté l'œuvre en disant à Gustav Mahler : si ce que j'ai entendu est de la musique, alors je ne comprends plus rien à la musique. En comparaison de ce que je viens d'entendre, Tristan me fait l'effet d'une symphonie de Haydn. C'est amusant aussi commentaire.
Oui.
Donc, Gustav Mahler a dû se battre pour pouvoir faire exécuter ses œuvres et notamment cette symphonie qui, je suis sûr, aura un succès formidable à Toulouse. Hein, donc, c'est certain. Alors, elle demande des effectifs un peu exceptionnels. Hein.
Presque colossaux.
Ah oui. Il y a deux jours, assisté à une répétition, j'ai pu constater, on m'a même dit qu'il y avait 115 musiciens qui composaient l'orchestre. Hein. Donc, heureusement que notre orchestre, maintenant, comporte 125 musiciens. Et donc,
C'est une symphonie oratorio, d'une certaine manière.
Oui. avec donc deux voix solistes, deux voix féminines, une voix de soprano, une voix de mezzo soprano, et puis un chœur qui intervient vers la fin. Hein. Au début, ce ne sont que des mouvements instrumentaux d'abord. Hein. Mais bon, c'est une œuvre formidable. Hein, donc. Et signalons que après l'exécution toulousaine de cette œuvre, eh bien, elle sera reprise à la Philharmonie de Paris le mardi 11 février à 20h30 avec les mêmes interprètes sous la direction de Touvan Sokiev, de nouveau donc dans cette magnifique salle de la Philharmonie.
On n'a pas cité les solistes.
Ah, on n'a pas cité les solistes, effectivement.
Important, même si la mezzo et la soprano, puisqu'il s'agit de femmes, oui, n'ont pas tout à fait le même rôle. Leurs interventions n'ont pas la même ampleur, l'une et l'autre. La soprano, c'est beaucoup plus discret, quand même.
Oui, exactement. Alors, il s'agira de Janine de Bic, donc soprano, qui vient de...
Ah oui, alors là, j'ai été très étonné.
Oui, oui, alors qui est de...
Trinidad et Tobago.
Trinidad et Tobago, voilà. Et la mezzo-soprane étant Janine Abechle, que l'on connaît un peu mieux à Toulouse, puisqu'elle elle a chanté assez souvent à la fois sur la scène du Capitole et à la Halloga.
Y compris lors de la dernière interprétation de cette deuxième symphonie de Mahler à Toulouse, c'était en mars 2012, oui, et c'était déjà Janina Bechler qui tenait le rôle de la mezzo.
De la mezzo.
Vous y étiez
J'y étais, oui, ouais. Oui, c'était magnifique. Vraiment, ça a laissé un grand souvenir auprès du public de la Halloga de ce soir-là.
Une œuvre qui dure 1h20,
oui,
c'est pour ça que c'est la seule qui est au programme.
Et je pense elle se suffit à elle-même.
C'est ce que j'allais dire, ça suffit largement. On va en écouter un extrait, et comme je vous disais qu'il y a quelques années, la symphonie numéro 2 de Mahler avait été donnée par l'Orchestre National du Capitole à la Lograin. Ça va nous permettre d'en écouter un extrait interprété par Ses Bons Soins, l'ensemble symphonique toulousain et dirigé bien sûr par Touvan Sokiev. Un extrait de la symphonie numéro 2, Résurrection de Gustav Mahler par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Touvan Sokiev. Vous les retrouverez ce samedi 8 février à 20h à la Halle au Grain pour interpréter cette même œuvre avec le chœur Orfeon Donostiara, la soprano Janine de Bic et la mezzo Janina Bechle. Après la monumentale deuxième symphonie de Mahler, nous allons passer de la musique de chambre. Mardi 11 février à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, la Saison Bleue a programmé un concert du trio de prestige formé par le pianiste Philippe Cassard, la violoncelliste Anne Gastinel et le violoniste David Grimal, une formation qu'on est habitué à voir dans cette programmation depuis quelques années. Il y a 2 ans, ils avaient joué des trios avec piano de Schubert, l'année dernière des trios de Beethoven, et bien cette année, 250e anniversaire de sa naissance oblige, ils vont jouer de nouveau des trios de Beethoven. Lesquels ont-ils mis à leur programme, Serge Chosy ?
Eh bien, ils ont mis à leur programme le deuxième et le sixième. Deuxième en sol majeur, le sixième en mi bémol majeur, donc deux trios en majeur. Et puis, entre les deux, ils ont programmé une pièce assez amusante qui est constituée de 10 variations en sol majeur sur « Ich bin der Schneider Kakadu » d'un certain Wenzel Müller. Alors, « Ich bin der Schneider Kakadu », ça veut dire « Je suis le tailleur Kakadu ». C'est un tailleur, donc.
Oui, alors bon, ça doit dire quelque chose aux Allemands, je suppose.
Sûrement, sûrement.
À moi, ça ne dit rien.
Non, mais en tout cas, c'est une... Bon, on sait que Beethoven était le champion des variations.
Oui.
Et qu'il en a écrit des dizaines et des dizaines. Hein. Et donc, celle-là est assez particulière. Donc, c'est 10 variations en sol majeur qu'on sera très heureux d'écouter.
Tout est en majeur. Tout est en majeur. Je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est un choix de leur part. À mon avis, c'est plutôt un choix de leur part. Alors, vous vous souvenez des concerts dont ils nous ont gratifié ces dernières années.
Oui.
L'an dernier, donc c'était, oui, je crois que c'était l'an dernier ou il y a un an et demi, je ne sais plus exactement. C'était déjà du Beethoven, d'autres trios que ceux-ci.
Voilà, oui.
Quels souvenirs vous en gardez?
Ah, ben, très bien, voilà, ce sont trois artistes qui ont l'habitude de jouer ensemble et ça forme un véritable ensemble. Et donc, ce n'est pas trois solistes séparés. Donc,
Oui, mais alors, il se trouve que chacun d'entre eux est un soliste.
Oui.
Formidable.
Oui. Mais la fusion fonctionne.
Et puis, il y a autre chose, c'est que, bon, ce sont trois amis et ils aiment beaucoup s'amuser entre eux. Et
oui.
Chaque intervention de Philippe Cassard et de David Grimal est toujours très drôle.
Oui, ça, c'est vrai. Oui.
C'est parfois un peu un concours, d'ailleurs, entre eux. Ils plaisantent entre les pièces et c'est à celui qui sera le plus bavard parce qu'il faut reconnaître qu'ils n'ont pas peur de meubler entre les morceaux. Alors, je n'ai pas trouvé d'interprétation des trios numéro 2 et numéro 6 de Beethoven par le trio Cassard-Gastinel-Grimal. En revanche, j'ai un court extrait de leur version du trio numéro 1, opus 1, numéro 1 que de 1 à vous proposer. On écoute tout de suite Philippe Cassard, Anne Gastinel et David Grimal. Petit extrait du trio numéro 1, opus 1, numéro 1 de Beethoven, interprété par le trio Cassard-Gastinel-Grimal. Ils seront en concert mardi prochain, 11 février à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, où ils donneront un programme de trio avec piano du grand compositeur allemand dans le cadre de la programmation de la Saison Bleue. C'est avec une voix que nous allons terminer cet agenda de la semaine et ce numéro. Cette voix, c'est celle de la soprano Annick Massis, qui est en récital vendredi 14 février à 20h, au Théâtre du Capitole, et cette voix, c'est aussi la voix humaine, c'est-à-dire l'œuvre que Francis Poulenc a composée sur le texte de la pièce éponyme de son ami Jean Cocteau. Les deux hommes étaient en effet amis depuis longtemps lorsque le compositeur s'est décidé à mettre en musique le texte de l'écrivain à la fin des années 50. Qu'est-ce que vous pensez de cette œuvre assez singulière, Serge Chosy ? Et je parle autant de la pièce de Cocteau que de la composition de Poulenc.
Ah bah c'est absolument singulier, unique, hein, une seule cantatrice qui reste en scène pendant toute la durée. C'est pas un opéra très long, c'est un peu moins d'une heure, hein, mais c'est quand même un opéra, enfin une pièce tout à fait passionnante parce qu'elle est dramatique à un point incroyable. Et puis c'est une discussion au téléphone, c'est ça qui est important.
La voix humaine, c'est ça, hein, c'est une femme qui parle au téléphone, en fait qui essaye de retenir
l'amant qui la quitte.
Voilà, son amant, son mari, bah oui, qui la quitte ou qui est en train de la quitter, qui en a une autre.
Oui, et d'ailleurs il y a des surprises, la communication est interrompue, elle est reprise. Enfin, c'est une œuvre tout à fait passionnante qui a été donc... L'œuvre de Cocteau avait été créée, si je me souviens bien, par une certaine Berthe Bovy, qui était une sociétaire de la Comédie Française.
C'est ça.
Et l'œuvre de Poulenc a été créée par sa grande amie Denise Duval, que j'ai eu la chance de voir à Toulouse, dans cette même voix humaine, il y a très très longtemps. Et donc, elle était venue, Denise Duval, elle était stupéfiante dans cette œuvre.
Effectivement, Denise Duval l'a créée en 1959 à l'Opéra Comique. Et qui dirigeait l'orchestre? C'est quelqu'un qu'on connaît bien aussi dans la région. C'était Georges Prêtre.
Mais oui, Georges Prêtre. Et c'était Georges Prêtre qui dirigeait dans la représentation toulousaine, bien plus tardive évidemment. Mais j'ai ce souvenir tout à fait extraordinaire. Je me souviens même qu'au même concert, il y avait l'heure espagnole de Ravel. Donc, c'est vraiment impressionnant de mettre en regard une œuvre aussi tragique que La Voix humaine et aussi comique que l'heure espagnole.
Alors, la pièce de Cocteau avait été enregistrée par Simone Signoret, par exemple, oui. Mais elle est très difficile à dire. Il y a la musique, mais sans la musique, je peux vous dire que c'est pas simple du tout d'être seul en scène pendant près d'une heure avec un téléphone dans les mains. Bon, c'est toujours un peu scénarisé, mais tout de même. Voici ce que Cocteau a dit à Poulenc, après avoir découvert ce que son ami avait fait du texte de sa pièce. « Mon cher Francis, tu as fixé une fois pour toutes la façon de dire mon texte. »
Ah, ça, c'est un compliment. Un sacré compliment.
Mallarmé avait dit un peu la même chose à Debussy. On en revient à Debussy pour le faune.
Oui, oui, voilà.
Et lui pensait que l'œuvre de Debussy était supérieure à son texte, ce qui était aussi encore un compliment vraiment extraordinaire. Alors, on va dire un mot quand même d'Annick Massis, puisque c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Il y a déjà quelques années, je crois même qu'elle l'a enregistré. Je crois que ça se trouve sur CD. On va en dire un mot parce que l'an dernier, on l'a vu dans... la prise de rôle de Lucrezia Borgia. Et elle avait été formidable.
Formidable. Hein, vraiment impressionnante. C'est une cantatrice aussi, dont la voix aussi a évolué, hein, qui était une voix très aiguë, très claire, et puis qui s'est élargie. Et j'imagine que dans la voix humaine, elle doit être excellente.
Alors, elle sera accompagnée au piano par Antoine Paloc.
Oui, donc c'est une version pour piano.
Voilà, hein, que les gens soient bien conscients de ça, c'est une version piano, il n'y a pas d'orchestre derrière. Eh bien, on va en écouter un extrait de cette voix humaine chantée par la jolie voix, très humaine, d'Annick Massis, le début de la voix humaine de Francis Poulenc. Un extrait de la voix humaine de Francis Poulenc en version orchestrale, interprété par Annick Massis, qui la donnera en récital au Théâtre du Capitole vendredi 14 février, accompagné par le pianiste Antoine Paloc. Nous devons maintenant conclure ce numéro de Mélomanie, auquel je remercie mon ami Serge Chosy d'avoir participé et de l'avoir animé à mes côtés comme il sait si bien le faire. Je rappelle les événements musicaux à noter dans votre agenda la semaine prochaine. Tout d'abord, ce samedi 8 février à 20h, le concert de l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains. Sous la direction de Tougan Sokiev, l'ensemble symphonique toulousain va donner la symphonie numéro 2, Résurrection de Gustav Mahler, avec le chœur Orpheon Dionos Chiara, la soprano Janine Debic et la mezzo Janina Bachelet. Vous pouvez vous renseigner, réserver et acheter vos places sur le site www.onct.toulouse.fr. Mardi 11 février à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, concert de la Saison Bleue avec le trio formé par Philippe Cassard, Anne Gastinel et David Grimal. Ils vont jouer un programme de trio avec piano de Beethoven. Renseignements et réservations sur le site www.lasaisonbleue.toulouse.fr. Et enfin, j'insiste encore sur le récital que donne la soprano Annick Massis, accompagnée par le pianiste Antoine Paloc, vendredi 14 février à 20h au Théâtre du Capitole, où ils vont interpréter La voix humaine de Francis Poulenc d'après la pièce de Jean Cocteau. Une œuvre rarement donnée, alors il faut en profiter en réservant et en achetant vos places dès maintenant sur le site www.theatreducapitole.fr. Merci à Christophe Aubry pour la réalisation de cette émission. Merci d'en avoir assuré la régie technique. Le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine musicale.